Je ne regrette rien, une série en 6 épisodes sur la vie, l'œuvre et la carrière d'Édith Piaf. Lors du deuxième épisode, nous avons vu comment certains artistes, dont Édith Piaf, ont traversé la guerre sans trop d'inquiétude. Nous avons été témoins de sa rencontre avec Yves Montand, avec Aznavour et Pierre Roche, puis avec les Compagnons de la chanson, qui l'accompagnent dans sa première tournée en Amérique. Dans le troisième épisode, il sera question de cette première visite à New York, des amours tumultueuses et de quelques rencontres marquantes. Troisième épisode. Mais d'abord, écoutons brièvement Édith Piaf, tirée de l'album Tête à tête, nous parler de l'importance de l'amitié.
Maintenant, on va parler de l'amitié. Et je pense qu'on est très souvent à côté dans la vie. On n'essaie pas de comprendre les êtres. C'est-à-dire qu'on les juge à travers soi-même. Et évidemment, les réactions des autres ne sont pas les mêmes que les nôtres. Le copain de mon vieux Lucien, c'est un peu ça. Son copain a failli se tuer, il s'en était pas rendu compte. Il avait pensé qu'il plaisantait, qu'il était incapable d'être amoureux, que j'ai peut-être fait aussi cette erreur dans la vie de ne pas comprendre certains personnages en croyant les connaître à fond. J'ai dû bien gaffer des fois et faire du mal sans le vouloir.
Après une tournée européenne avec les Compagnons, Piaf, au début de l'été 1947, joue avec eux dans un film intitulé « Neuf garçons et un cœur ». Une histoire naïve, sans grand intérêt, si ce n'est quelques chansons dont le film est le prétexte. C'est pour ça, en est une belle illustration. C'est pour ça. Piaf et les Compagnons débarquent à New York à la mi-octobre 1947. Question de prendre le pouls de la ville avant la série de concerts au Playhouse Theater sur Broadway à partir du 30 octobre. Édith pavoise au bras de son nouvel amant, Jean-Louis Jaubert, directeur du groupe des Compagnons. Invité chez un couple de Français qui tient restaurant dans une banlieue nord-ouest de la ville, Piaf y fait la rencontre du boxeur Marcel Cerdan, à qui elle avait déjà été présentée au Club des Cinq à Paris. Cerdan, qui, né en Algérie, vit au Maroc, s'entraîne à New York pour un combat qui va l'opposer à l'Estonien Anton Raadic, à Chicago, le lendemain de la première de Piaf. Elle, qui ne connaît rien à la boxe, tombe sous le charme de l'homme déjà marié et père de 3 enfants. Aussitôt, elle prend ses distances de Jean-Louis Jaubert et elle écrit à son ami Jacques Bourgeat que Cerdan est le nouvel homme dans sa vie. Robert Bellerin.
Jacques Bourgeat qui était un érudit, enfin un autodidacte érudit, qui passait ses journées à la Bibliothèque nationale dans les livres, qui a écrit quelques livres sans grand succès, qui était son confident, un homme en qui elle avait une confiance absolue, qui était son confident, je dirais presque son confesseur. Alors elle lui raconte tout de sa vie et de ses amours. Alors on a, grâce à cette correspondance, tous les méandres de ses, de la ronde de ses amants, de son histoire avec Marcel Cerdan. Là, on en voit le côté ombreux un peu.
Dans les jours qui précèdent la première au Playhouse Theatre, Piaf, qui s'acharne sur quelques chansons en anglais, est prise d'un trac comme elle n'en a jamais connu. Elle maîtrise mal la langue anglaise et appréhende la réaction des Américains. Le soir de la première, sur invitation, la salle est comble. Marlène Dietrich y assiste. C'est le commencement d'une amitié étrange et ambiguë qui culminera 4 ou 5 ans plus tard comme témoin au premier mariage d'Edith. Dietrich, dans son autobiographie, se donne un rôle important et intime auprès d'Edith Piaf, rôle qu'ont nuancé et contesté plusieurs contemporains. Les compagnons qui assurent la première partie du spectacle sont chaleureusement applaudis. Quant à la vedette, l'accueil est plus réservé. Les invités attendaient une chanteuse française pétillante, vêtue de paillettes à la Joséphine Baker. Cette petite femme, au teint blafard, en robe noire, aux gestes retenus, avec son répertoire de chansons tristes, ne plaît pas à ce public qui vibre davantage au country et aux crooners. Elle regrette son manque de préparation, son manque de connaissance des habitudes et de la culture américaine. « Nous heurtions les habitudes américaines », écrit Piaf, qui accepte mal cet échec, d'autant plus mal que ses protégés, les compagnons, ont mieux réussi qu'elle. Elle regrette de les avoir trop rapidement associés à cette première tournée dans un pays étranger. Une sourde rivalité s'installe, dont Jean-Louis Jaubert, qu'elle n'a pas encore reconduit, fait les frais. Un baume léger sur la déception de l'artiste, Cerdan, vainqueur à l'arraché à Chicago, vient l'entendre au Playhouse la semaine suivante, juste avant sa rentrée à Paris. En décembre, les compagnons se séparent momentanément d'Edith pour répondre à des engagements en Floride. Elle, qui n'a pas dit son dernier mot dans sa volonté de conquérir les Américains, termine son contrat au Playhouse et s'engage en janvier pour une semaine au Versailles, un chic cabaret-restaurant sur Broadway. Elle y chante jusqu'en mars, à guichet fermé. Le bouche-à-oreille a fait son œuvre, tant et si bien que vont s'y présenter de nombreuses vedettes de la chanson et du cinéma américain pour l'entendre. Pendant qu'Edith triomphe au Versailles, Marcel Cerdan revient à New York pour un combat au Madison Square Garden le 12 mars, le jour même où Edith et les compagnons doivent rentrer en France. Elle choisit de rester, question de lui rendre la politesse pour assister au combat que Cerdan va remporter. Edith confie au journaliste « J'avais horreur de la boxe jusque-là, mais depuis que j'ai vu Marcel, ce n'est plus la même chose. C'est très beau avec lui. » Le 17 mars, les deux vedettes sont acclamées par une foule de journalistes à leur descente d'avion à Orly. Ils tentent tant bien que mal de camoufler leur idylle sous les traits d'une belle amitié dont se font complices certains journalistes. Pendant que Marcel Cerdan reprend l'entraînement sans véritable enthousiasme, Piaf prépare sa rentrée à l'ABC, prévue pour la fin du mois d'avril. Elle met au programme une toute nouvelle chanson que lui a offerte le jeune Léo Ferré, comme s'il avait soupçonné le manège. Sur un air de valse signé Eddy Marnay, Les Amants de Paris.
Les Amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants, de drôles de passons. Les Amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit grain de chanson, plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de façon. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain.
Cerdan, qui a remporté facilement son combat au Veldive, accuse une humiliante défaite à Bruxelles en mai contre Cyril Delannoy. Cette défaite compromet ses chances de se battre bientôt pour le titre mondial de sa catégorie. Edith, pour ne rien compromettre, s'est tenue à l'écart de ses combats, mais s'étouffe de colère en lisant la manchette de France Dimanche « Piaf porte malheur à Cerdan ». Sans être explicite, l'article démasque le jeu de cache-cache auquel les deux vedettes se livrent depuis des semaines. Pendant que Piaf multiplie les démentis, Cerdan reçoit un télégramme de sa femme, Marinette, qui veut des explications. Et l'entourage immédiat du boxeur règle à coup de poing, rien de moins, le litige avec les journalistes de France Dimanche. Une tournée dans les principales villes de province avec les compagnons apaise les passions et Piaf ajoute à son programme une chanson que j'ai longtemps cru, à tort, écrite pour les compagnons, alors que c'est elle qui leur a proposé. De Francis Blanche et Gérard Calvi, Le prisonnier de la tour.
Prisonnier de la tour était mon seul ami, grand-mère. Nous n'irons pas à la messe aujourd'hui. Il était mon seul amour, la raison de ma vie, grand-mère. Et ma jeunesse est éteinte avec lui. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça.
À la fin du mois d'août, Cerdan s'envole vers New York pour préparer plus intensément son combat de championnat fixé au 21 septembre 1948. Sa garde rapprochée a tout fait pour empêcher Edith de partir avec lui. Elle s'amène cependant quelques jours plus tard avec sa complice Momone, ce qui n'a rien de rassurant pour l'entourage du boxeur. À l'agenda d'Edith, qui fera un retour au Versailles le 22 septembre, lendemain du combat de championnat, y est notée une première tournée québécoise avec les compagnons du 8 au 15 septembre. D'abord au Monument national à Montréal, au Palais Montcalm à Québec, où elle donne deux concerts le même jour. Un arrêt à Trois-Rivières pour finalement terminer à Ottawa. Jean-Marie Lebel.
Elle vient un peu par accident en 48. C'était pas planifié. C'est qu'en 48, elle est à New York. Elle est à New York pour assister au championnat du monde de Marcel Cerdan, qui va se dérouler au Madison Square Garden, qui est le grand aréna de New York. Alors, elle est à New York pour la... Ben, c'est l'amour de sa vie, là. Hein. Elle est à New York pour l'accompagner, tout cela. Et puis, le manager de Cerdan, pendant les entraînements, tout cela, là, le manager dit, la petite noire, là, je veux pas la voir, parce qu'elle te déconcentre. Alors là, elle est mal prise un peu. Et là, elle a appelé Louis Barrier, qui était son gérant à l'époque, elle a appelé Louis Barrier, puis elle a dit, prépare-moi de quoi, là? Elle a dit, j'ai deux semaines. Et puis, c'est là qu'il a eu l'idée de l'envoyer au Canada. Il dit, c'est pas très loin, tu n'es jamais allé au Canada encore. Et puis, lui, il est rentré en contact avec le Monument national à Montréal, qui était un grand stade qui existe encore et qui appartenait à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, ce qui fait qu'il a été capable de programmer des spectacles au Monument national. Au responsable du Monument national, il dit, tu es capable de me donner un contact à Québec? Et c'est là qu'il a mis en contact avec le gérant du Palais Montcalm. Ça répète le gérant du Capitole. Parce qu'on avait des spectacles aussi au Capitole. Maurice Chevalier venait au Capitole. Celui du Monument national, il l'a mis en contact avec le Palais Montcalm. Alors, c'est comme ça que sa première visite à Québec en 1948, ce sera au Palais Montcalm.
La fin de cette tournée canadienne marque aussi la fin de son association avec les compagnons, qu'elle retrouvera à l'occasion de tournées ou de galas, mais qui, désormais, feront carrière sans elle jusqu'en 1985, l'année de la dissolution du groupe. La veille de la première au Versailles, l'angoisse de la chanteuse est à son comble. Assise aux premières loges du Roosevelt Stadium, où Cerdan affronte l'Américain Tony Zale dans un combat de championnat, c'est au bord du délire qu'Edith accueille la victoire de Marcel par knockout à la fin du 11e round. Le lendemain, élégant, en smoking, le vainqueur du ring assiste au Versailles à un autre triomphe, rien de moins. Le nouveau champion du monde est acclamé en héros lorsqu'il rentre seul à Paris. Après un mois et demi en famille au Maroc, il revient à New York à la mi-novembre sous prétexte d'une série de combats de démonstration. Il est tous les soirs au Versailles. Piaf, qui doit vivre de longues périodes loin de son amoureux, connaît des accès de jalousie lorsqu'elle apprend que d'autres femmes s'intéressent à lui et la valse des allers-retours Paris-New York se poursuit. Le 16 juin 1949, Cerdan perd son titre de champion du monde, remporté 9 mois plus tôt, et le retour en France est un peu moins glorieux. Dans un film qui lui est consacré, « L'homme aux mains d'argile », Edith y interprète une très jolie chanson sur Paris.
On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au 5e étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté, Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, il y a des gamins, des artisans, il y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris.
Soudainement, le ton change dans les déclarations d'Edith. Amoureuse jusqu'à la servitude, elle qui dit être prête à le suivre au bout du monde, à se faire teindre en blonde, réalise qu'un pan de la vie de Marcel Cerdan lui échappera toujours, ne lui appartiendra jamais, son attachement à ses 3 fils. Elle ne pourra jamais espérer plus de cet homme que le titre de maîtresse. Elle devra le partager avec sa famille, avec son métier. Bref, leur relation est vouée à l'impasse et elle comprend que quand il reviendra à New York, ce ne sera pas d'abord pour elle, mais pour préparer un prochain combat. Le combat de revanche de championnat a été fixé au 2 décembre. Cerdan doit donc revenir à New York à la fin du mois d'octobre pour reprendre l'entraînement, ce qui, momentanément, met Edith en joie. Dans la soirée du 29 octobre, le Constellation d'Air France quitte Orly à 21h30. Avant de faire une escale aux Açores, au milieu de la nuit, l'avion disparaît des écrans radars et s'écrase sur le pic de Rodonta de l'île São Miguel, ne laissant aucun survivant. Tôt le matin du 28 octobre, lorsque la nouvelle arrive à New York, Edith dort encore. Quand au début de l'après-midi, on l'informe, elle s'effondre. Au Versailles, on s'apprête à annuler les représentations du soir et le co-directeur se rend au chevet de la chanteuse qui refuse et déclare vouloir chanter le soir même. Vers 22h, après un détour à l'église Saint-Vincent Ferrier pour y allumer un cierge et s'y recueillir, après s'être habillée et maquillée, Edith Piaf s'avance sur la scène et devant le microphone déclare d'une voix ferme à la foule informée du drame: ce soir, je chanterai pour Marcel Cerdan, rien que pour lui.
« ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma porte, les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais.
La légende s'est emparée de cette soirée hautement émotive. Les témoins ont des versions si différentes de l'événement qu'il est difficile d'en établir la réalité. A-t-elle eu des étourdissements, des trous de mémoire? S'est-elle évanouie? Certains l'affirment. Dans les jours qui ont suivi, Piaf n'aura qu'un désir, le rejoindre, comme elle l'avoue dans une lettre à son confident Jacques Bourgeat. Dans la peine et dans l'excès, son esprit déraille. Elle croit en une punition divine pour leur faute, sans savoir quelle est véritablement la faute. Elle suggère des punitions acceptables, la perte de sa voix, la perte d'un combat, mais pas perdre la vie, c'est d'une cruauté innommable. Dans ses moments de trouble, elle se livre à de ridicules séances de spiritisme et de tables parlantes. La chanteuse passa les fêtes de fin d'année à New York, avant de revenir à Paris au début du mois de février. Les deuils amoureux d'Édith Piaf n'ont jamais été longs et les amants vont bientôt se bousculer à sa porte. À Marseille, 5 mois après le décès de Cerdan, elle renoue avec le patron du Théâtre des Variétés où elle donne son spectacle, un certain Tony Reynaud. Séduite par le regard de l'homme qu'elle connaît depuis des années, elle s'abandonne pendant quelques semaines à d'intenses déclarations, des promesses et autres engagements sitôt rompus lorsqu'un jeune Américain ose lui présenter la traduction qu'il a faite de l'hymne à l'amour. Le cœur d'Edith s'emballe pour ce gaillard. Elle l'enrôle dans sa prochaine tournée. Il s'appelle Eddie Constantine. Se greffe à cette tournée Charles Aznavour, qui fait partie de la garde rapprochée de Piaf, mais qui n'a pas vraiment gagné son cœur. Le tandem Charles Aznavour-Pierre Roche avait déjà fait partie d'une tournée de Piaf avec d'autres artistes en 1947, et si elle n'aimait pas Pierre Roche, une complicité s'était établie avec Charles Aznavour, fils d'immigrant qui avait chanté dans la rue et qui dansait fort bien. Une complicité que traduit très bien cette chanson du duo Roche-Aznavour, Il y avait.
Il y avait un garçon qui vivait simplement, travaillant dans le faubourg.
Il y avait une fille qui rêvait sagement, en attendant l'amour.
Il y avait le printemps des romans, qui passait en chantant.
Et cherchait de cœur tout blanc pour prêter ses serments et en faire des amants.
Il y a eu un moment merveilleux lorsque leurs regards se sont unis.
Il y a eu ces instants délicieux où sans rien dire ils se sont compris.
Il y a eu le destin qui a poussé le gamin à lui prendre la main. Il y a eu la chaleur du bonheur qui leur montait au cœur.
y avait cette chambre meublée aux fenêtres donnant sur la cour. Il y avait ce couple qui s'aimait et leurs phrases parallèles toujours.
Il y avait le gamin qui promenait sa main dans les cheveux de lin de la fille aux yeux rêveurs, tandis que dans leur cœur s'installait le bonheur.
Après cette tournée européenne, le duo Aznavour-Roche s'offre un séjour prolongé au Québec où Pierre Roche y rencontre l'amour, la chanteuse Jocelyne Deslongchamps, connue sous le nom d'Aglaé. Pendant que les liens de l'un se construisent ici, ceux de l'autre se défont. De retour en France, Aznavour, devenu célibataire, habite chez Piaf, qui le traite comme un simple serviteur, un homme à tout faire. Sa présence l'agace, et pourtant, elle le veut sous son toit. Elle ne fait rien pour promouvoir son talent auquel elle ne croit pas, bien qu'elle accepte d'interpréter quelques-unes de ses chansons. Pour l'intégrer à sa prochaine tournée, elle exige qu'il largue définitivement Pierre Roche, ce qu'a fait Aznavour. Selon Daniel Panchenko, l'un des biographes d'Aznavour, leur relation professionnelle atteignait aussi son terme naturel. En effet, Pierre Roche, marié au Québec, veut y développer sa carrière, alors que sous l'instigation d'Édith Piaf, Charles Aznavour choisit la France. Aider Constantine jouit quant à lui d'un autre statut. C'est le nouvel amoureux, et comme ce fut le cas pour les autres avant lui, Piaf s'engage à lui planifier une carrière. Du matin jusqu'au soir.
Du matin jusqu'au soir et du soir au matin, moi je l'aime. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, moi je trouve ça parfait, car je l'aime. Dès le lever du jour, ce sont des mots d'amour. Du m'amour, on s'aimera toujours. Il sourit, puis il dit, tu bouleverses ma vie, c'est qu'il m'aime.
Source et documentation, Robert Belleret, Piaf, un mythe français. Simone Berthaud, Piaf. Joël Montserrat, Édith Piaf. Daniel Panchenko, Charles Aznavour, Le destin apprivoisé. Édith Piaf, Au bal de la chance. Prise de son, montage et mise en onde, Yannick Caron. Recherche, choix musical, texte et narration, Yves Houd.
Je ne suis pas du tout aveuglé par l'amour, je vois objectivement le contre et puis le pour. Vous voyez qu'honnêtement, je ne suis pas de parti pris, mais j'avoue franchement, il n'y en a pas deux comme lui. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin, moi je l'aime. Qu'il dit, ce qu'il fait, moi je trouve ça parfait, car je l'aime. Dès le lever du jour, ce sont des mots d'amour, du m'amour, on s'aimera toujours. Il sourit, puis il dit, tu bouleverses ma vie, c'est qu'il m'aime. C'est bon d'être amoureux, surtout quand on est deux et qu'on s'aime.